Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'Iran a été secoué par de violentes manifestations voici quelques semaines et comme nous l'avions évoqué dans une précédente émission, ce sont surtout les classes populaires qui sont descendues dans la rue contre l'absence d'emploi et pour plus de libertés individuelles. Les classes moyennes et supérieures sont restées à la maison, mais elles n'en pensent pas moins. Dans les grandes villes du pays se développent de nouvelles formes de contestation visibles, à l'image de ces femmes qui se dressent dans la rue, enlèvent leur voile et le tendent au bout d'un bâton comme un trophée. Ou encore à Téhéran, avec ses galeries d'art qui exposent toujours plus de culture et de modernité, comme celle de notre invitée, Anaïta Gabayan. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanté au Caire. Bonjour Anaïta Gabayan.
Bonjour.
Vous êtes titulaire d'un doctorat en histoire de l'Université Paris Diderot et vous avez créé en 2001 la Silk Road Gallery, première galerie spécialisée en photographie en Iran. Ce lieu est en plein Téhéran et il accueille régulièrement des expositions. Vous-même, vous participez à des foires internationales de photographie et d'art contemporain, comme cet été par exemple dans le sud de la France à Arles, où vous étiez commissaire de l'exposition Iran, année 38. Et puis plus récemment à Paris au Grand Palais, à l'occasion de la 21e édition de Paris Photo. Anaïta Gabayan, qui fréquente votre galerie à Téhéran ?
La galerie est fréquentée majoritairement par des étudiants. On n'est pas très loin. En fait, on a deux espaces. L'espace qui se trouve au centre-ville est souvent fréquenté par les étudiants parce qu'on est tout près de l'université de Téhéran. Mais à l'occasion de nos expositions, on a des collecteurs ou on a des étrangers, des touristes qui viennent à la galerie. En fonction de l'exposition, on a soit beaucoup plus des étudiants, beaucoup moins de collectionneurs ou l'inverse.
Donc, votre galerie a été la première à Téhéran en 2001. Y en a-t-il d'autres aujourd'hui ?
Alors moi j'ai créé donc la première galerie spécialisée dans la photographie. Aujourd'hui il y a de très nombreuses galeries à Téhéran. Il doit y en avoir aux alentours même de 200 si je ne me trompe pas. Une trentaine sont très actives et les autres sont là, ont des expositions. Il y a quelques galeries spécialisées dans la photographie, mais la majorité de ces galeries font aussi bien de la peinture que de la photographie ou d'autres médiums.
Alors l'une de vos premières expositions dans la Silk Road Gallery, vous l'avez consacrée à un cinéaste iranien, Abbas Kiarostami. Pourquoi avoir choisi cette personnalité iranienne ?
Abbas Kiarostami était un ami très proche et c'est lui qui m'a suggéré de commencer cette galerie. En fait, pendant longtemps à Téhéran, je ne savais pas très bien vers quel domaine me diriger et il me disait régulièrement « mais tu as une âme d'artiste ». En fait, je n'avais aucune âme d'artiste, j'étais juste intéressée et beaucoup par les arts et particulièrement par la photographie. Et puis à un certain moment, quand il avait déjà fait une exposition dans une autre galerie, on a regardé ses photos, il m'a dit vraiment, c'est une très très bonne idée, commence une galerie. C'est grâce à lui que j'ai commencé la Silk Road Gallery et très naturellement, on a commencé avec l'exposition de ses reflets en 2001, en décembre 2001.
Des paysages essentiellement.
Oui.
Quels sont les thèmes qui sont abordés aujourd'hui par les artistes que vous exposez dans votre galerie ?
Alors, quand il s'agit d'une exposition d'Abbas Kiarostami, d'une exposition qui a eu hélas lieu il y a longtemps parce qu'il a disparu depuis un an et demi, il s'agissait bien sûr de paysages. Il avait l'âme poète, il était cette personne qui avait vraiment introduit la poésie dans les arts visuels. Cette poésie qui était très présente dans notre culture depuis
des millénaires,
on peut le dire, a fait surface cette fois-ci dans le domaine des arts visuels. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'autres photographes, des jeunes ou des moins jeunes qui traitent de sujets d'actualité ou parlent de l'histoire. Par exemple, on a des expositions sur la guerre. Aujourd'hui, on a des expositions sur la révolution 38 ans après. Les jeunes parlent beaucoup des sujets intimistes, commencent beaucoup à parler d'eux-mêmes pour après parler aussi de leur environnement. Les moins jeunes, en fait, la première génération de photographes traite de sujets plus généraux, disons, de la guerre, de la révolution, ou enfin des sujets généraux ou des victimes de la guerre Iran-Irak. La jeune génération se dirige de plus en plus vers des sujets intimistes. Et ça, c'est un phénomène très récent.
Et la religion ?
Personne n'en parle. Honnêtement, personne n'en parle. Je crois que chacun a sa propre conviction et c'est un domaine privé pour les artistes. Oui, chacun prend sa propre direction.
Dans une déclaration publique, vous avez dit que toute personne qui veut faire de la photographie ou du documentaire se doit de ne pas franchir un certain nombre de lignes rouges. Quelles sont ces lignes rouges, à votre avis ?
Oui, c'est une question à laquelle j'ai répondu plusieurs fois, et c'est vrai, de toute façon, tout le monde connaît plus ou moins l'Iran d'aujourd'hui, il y a des lignes rouges, bien sûr, la République islamique, comme son nom l'indique, et donc un système religieux, il ne faut pas traiter de sujets religieux, en tout cas, il faut, même si on les traite, il faut que ce soit traité avec déférence, et puis c'est la religion de la majorité des Iraniens, et puis bon, d'autres sujets sont tabous, soit du point de vue de la société, soit du point de vue du système. C'est vrai qu'il y a des lignes rouges. L'Iran est ce qu'il est. On ne s'attend pas à pouvoir traiter tous les sujets qui sont, par exemple, traités ici en France ou en Occident en général.
Et les photographes que vous exposez les sentent, ces lignes rouges ?
Oui, pour pouvoir continuer à travailler en Iran, de toute façon, forcément, chacun respecte les limites au-delà desquelles on ne peut pas exposer son œuvre. Donc, on peut parler de sujets différents, plus ou moins librement, mais il faut toujours rester dans les limites possibles, je dirais.
On peut, par exemple, parler de la religion, traiter ce sujet-là, mais sans émettre de critiques outre mesure.
On peut constater, vous savez, il y a des cérémonies religieuses en Iran régulièrement. On peut aller photographier ces cérémonies religieuses et les exposer. On peut participer à des prières où il y a beaucoup de photographies de femmes ou d'hommes en train de prier. Il y a des photographies qui traitent du sujet de la religion. Maintenant, c'est d'une part une conviction qu'il faut respecter de la part de ces Iraniens qui sont en train de suivre leur rituel. D'autre part, on n'est pas là de toute façon pour critiquer quoi que ce soit.
Mais plus généralement, est-ce que vous ressentez une évolution dans la société iranienne depuis les premiers temps de votre galerie jusqu'à aujourd'hui ?
Alors, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. On a senti un vrai vent de liberté quand Khatami a été élu. C'était en 1997, il me semble. L'une des choses qu'il a faites, c'est qu'il a autorisé la publication de photographies dans les journaux et même encouragé. Donc ça a été quelque chose de très positif pour nous. C'est à ce moment-là que des cafés ont ouvert. Il y a eu vraiment une ouverture sur tous les plans pendant un moment. Puis après, il y a eu deux périodes de présidence d'Ahmadinejad où tout était complètement fermé, très légiféré, où on sentait moins les possibilités qu'on avait avant. Et aujourd'hui, on a l'impression d'une certaine liberté quand même par rapport aux périodes précédentes, parce que par exemple, par rapport à la galerie, nous ne sommes pas obligés de demander l'autorisation à chaque fois que nous avons une exposition. Nous avons la responsabilité de comprendre ce que nous pouvons montrer. Voilà.
Une certaine tolérance.
Oui.
Aujourd'hui, les États-Unis veulent remettre en cause l'accord sur le nucléaire iranien signé par de nombreux pays, dont la France notamment. Est-ce que vous craignez cette décision ?
On craigne, on critique. Je trouve que c'est le comportement le plus bête qui soit, parce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, pourquoi on a besoin d'une autre guerre ? Parce que c'est pas possible que la disparition, le déchirement de cet accord reste sans riposte. Il y aura des ripostes, certainement de la part de l'Iran, mais peut-être aussi d'autres pays. Vraiment, je trouve que Donald Trump a fait une grosse bêtise là.
D'un même point de vue, on voit qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite ou Israël présente toujours l'Iran comme celui qui pourvoit au terrorisme dans la région. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? On a l'impression qu'il y a besoin pour ces pays-là d'avoir un diable en face d'eux. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah oui, tout à fait. Après, c'est une politique qui est très fine. Il faut aller dans les racines de ces antagonismes. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps. Mais je vous invite par rapport aux Iraniens. Aux individus. Je vous invite à me citer un seul Iranien ayant participé à un acte de terrorisme. pas un seul dans le monde. On n'en connaît pas un. Citer l'Iran comme le pays du terrorisme, je ne sais pas, honnêtement. Après, le système iranien a sa politique, et je ne vais pas entrer dans les détails de cette politique, mais ni Israël, ni l'Arabie Saoudite ne sont innocents, et tout le monde le sait. C'est une situation très très grave, très dangereuse. Le Moyen-Orient est sur une sorte de poudrière et au moindre étincelle, ça va exploser. Vraiment, il faut pas aller dans ce sens-là. Le monde n'a pas besoin de nouvelles guerres.
Et est-ce que vous sentez justement que une partie de l'Occident, notamment l'Europe, Europe occidentale, la France, l'Allemagne, sont sur un autre mode de pensée que les États-Unis, par exemple, et sont prêts à renouer des relations fortes avec l'Iran, comme ça a été le cas dans le passé?
Clairement. De toute façon, si vous allez dans les rues de Téhéran, vous allez voir beaucoup plus de Peugeot et de Renault que d'autres voitures. Ça, c'est un fait. On sait que Total est aujourd'hui revenu en Iran. Il y a beaucoup de familles françaises qui reviennent. Il commence à y avoir une communauté importante française. Alors, pour les autres pays, je ne sais pas très bien, mais je sais qu'il y a, par exemple, une école allemande. Je sais qu'il y a une école italienne. Donc, il y a des familles qui sont là. Et quand on lit les journaux, quand on se tient au courant de la politique de l'Europe, on s'aperçoit clairement que l'Europe ne va pas du tout dans le même sens que les États-Unis d'aujourd'hui.
Un mot pour revenir sur la photographie. Est-ce que vous pensez que le développement du numérique aujourd'hui a favorisé l'émergence de nouveaux talents de photographes ou de documentaristes en Iran?
Oui, je le pense. Si vous regardez Instagram, qui n'est pas forcément aussi à la mode ici en France qu'en Iran, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Les Iraniens sont très très actifs sur Instagram. Il faut dire que c'est le réseau social qui n'a pas besoin d'antifiltre, qui n'est pas filtré du tout. Alors, si vous regardez, il y a des photographies alors brillantissimes. Puis les jeunes en profitent pour justement aller parler de leur intime et se mettre en scène. Pas se prendre en photo comme ça pendant les fêtes, tout ça, non, je ne parle pas du tout de ça. Il y a de ça aussi, bien sûr, mais parler de choses plus intimes. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait peut-être pas avant. Il y a quelques années ou quelques décennies, ça n'existait pas. Et je trouve que ça dirige un peu même la société, en quelque sorte. Pour la photographie, c'est très intéressant aussi, parce que tout ce qui se passe ailleurs dans le monde arrive en Iran aussi. On a donc un compte qui a commencé avec « Everyday New York ». Et aujourd'hui, non seulement on a Everyday Iran, mais on a aussi Everyday Kermanshah, Everyday Téhéran, Everyday Kashan, Everyday Isfahan. Voilà. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une activité assez importante sur les réseaux sociaux et ça nourrit beaucoup l'art, la photographie.
Est-ce cette liberté de parole et d'écriture finalement sur Instagram, est-ce parce que la censure n'a pas encore pris la mesure de ce média social, selon vous ?
Je ne sais pas, je peux pas le dire. Je ne sais pas.
Merci à Naïta Gabayan. Je renvoie également à votre livre « La photographie iranienne, un regard sur la création contemporaine en Iran ». C'est un livre qui a été publié en 2012.
Merci.
من یاسرم یه قاصدم که عازمم واسه حرف تازه تر که لازمن واسه رب یه سال و نیمه که دور از وطن و غافل از غافلم حالا اینا بمونه واسه بعد عازمم واسه برم میبینی تیپ دارم رو پیش رفت سول من تو شیش رفت سول بیدارم و دوباره میخوابم با نیشخند زول من یه مسافرم که تو کشور مجاورم ولی فقط اینو خدا میدونه که بعد از اینجا کجا برم این داره به مش میزنه فکر میکنم بهم خوش میگذره شهر فرنگ اون بره آب از دور دست بهتر و خوشتیبتره حرفام اینه اینکه تو
Il est l'un des rappeurs iraniens les plus populaires depuis une décennie. Yasser Bakhtiari est plus connu sous son nom de scène, Yas, qui est aussi le titre de son dernier album, dont Mossafer, le voyageur, est extrait.
من یاسرم یه قاصدم که عازمم واسه حرف تازه تر که لازمم واسه رب یه سال و نیمه که دور از وطن و غافل از غافلم حالا اینا
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, le Qatar dément avoir demandé à la chaîne Al Jazeera de ne pas diffuser un documentaire sur le lobby israélien à Washington.
Oui, et selon les journaux, la chaîne qatarienne d'information avait infiltré une taupe dans les milieux des lobbyistes pro-israéliens et il y aurait eu notamment des personnes qui auraient été filmées en caméra cachée dans un luxueux appartement qui avait été loué pour les piéger. Alors des responsables américains auraient demandé à leurs homologues qatariens lors d'une récente réunion à Washington, de faire suspendre la diffusion du documentaire annoncé par Al Jazeera. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'était pas question que le gouvernement qatarien porte atteinte à l'indépendance des médias.
Voilà, c'est dit. Michel Paul, Benjamin Netanyahou est dans le collimateur de la police israélienne, mais il contre-attaque.
Oui, c'est le sujet qui occupe la une de toute la presse israélienne et c'est bien sûr lié aux enquêtes sur l'implication du premier ministre israélien dans des affaires de malversation. Le chef de la police accuse plus ou moins directement Netanyahou de subornation de témoins, d'obstruction à la justice, en envoyant notamment des détectives privés recueillir des informations sur les enquêteurs eux-mêmes. Alors les réactions fusent dans les journaux, on parle dans Mariv de la théorie de la conspiration, du système Netanyahou, mais il y a aussi ceux qui prennent la défense du Premier ministre et affirment que le chef de la police, qui s'est exprimé pour la première fois dans le cadre d'une émission de télé, est tombé dans un piège. Pour Yediot Aharonot, ce sont des murmures avant la tempête. La classe dirigeante perd les pédales, estime un éditorialiste. Et dans Haaretz, le journal libéral, un chroniqueur estime que la méthode de Netanyahou est largement inspirée par Donald Trump.
Et il est aussi question de la bande de Gaza dans vos journaux, Michel.
Oui, de nombreux articles sur la situation humanitaire à Gaza. Et une fois de plus, Eric, ce sont les militaires qui attirent l'attention sur la situation catastrophique dans le territoire palestinien. Il s'agit d'un intérêt sécuritaire et vital de l'État d'Israël de venir en aide aux Gazaouis, estime une source reprise dans tous les quotidiens. Le problème, ajoute un commentateur, c'est que les politiques ont peur d'apparaître aux yeux du public israélien comme des défaitistes qui cèdent face au Hamas.
Alexandre, toujours dans la presse du Golfe, le rôle de la confrérie des frères musulmans au Yémen est examiné de près.
Oui, un rôle qui est qualifié de trouble par des journaux du Golfe qui soulignent que les partis et des personnalités frères musulmanes ont une attitude de caméléon qui change en fonction des circonstances. Alors certains éditorialistes accusent la confrérie, jugée terroriste aux Émirats, en Arabie et en Égypte, d'être au service du Qatar. Un pays boycotté par les principaux membres de la coalition militaire arabe contre les rebelles houthis au Yémen. Des personnalités proches de la confrérie avaient récemment dénoncé une occupation saoudienne du Yémen.
Enfin, et ça ne nous surprend pas Alexandre, vous avez repéré dans la presse panarabe un intérêt pour le déshabiller d'une danseuse du ventre russe.
Oui, son nom de scène, c'est Jawhara, diamant en arabe. Mais son vrai nom, c'est Ekaterina Andreeva. Elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux en Égypte et dans le monde arabe après la diffusion de vidéos de sa performance dans un nightclub du Caire. Déshabillée de dentelles échancrées et décolleté plongeant ont enflammé la toile. En d'autres temps, cela aurait été anodin, tellement la danse du ventre fait partie de la culture égyptienne. Mais depuis quelques mois, les autorités ont lancé une offensive contre ce qu'elles appellent l'incitation à la débauche. Et Catherine a donc été arrêtée, traînée devant le procureur, avant que l'on ordonne son expulsion. Un diktat dont l'exécution a été suspendue in extremis selon les journaux. Un feuilleton qui a presque fait oublier la couverture d'une élection présidentielle visiblement moins passionnante.
Et pour conclure, Michel, votre image de la semaine ?
Eh bien, c'est la photo de la délégation israélienne aux Jeux Olympiques d'hiver, la plus importante qu'ait connue l'État hébreu. 10 skieurs et patineurs, pas évident, souligne un commentateur, dans un pays sans neige, sans infrastructure et sans soutien pour ses athlètes.
Et où, en ce moment, le soleil brille. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission réalisée par Mathias Golshani que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook ainsi que sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, le journal.